comment faire en sorte qu'on devienne performante et qu'on regagne la confiance okay. du public.
Donc, on va regarder un peu ces trois personnes-là. Linda Gosselin, André Legault, Pierre Rodrigue vont regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de la gouvernance. Ils vont être tâchés d'examiner ce qui se fait ailleurs dans des trucs qui ressemblent un peu à l'application SACLIC. Puis, ils vont évaluer la qualité des services de la SAAQ. Là, c'est bonne chance, là. C'est vraiment.
C'est ça, exactement. Ça vient en complémentarité, là, selon la ministre Guilbeault, avec ce que la commission Galland fait justement sur la transformation numérique. Alors, eux vont plus regarder la transformation de l'organisation. Madame Guilbeault n'a pas caché qu'à 4813 employés, elle souhaite le voir réduire là, la taille de la SAAQ. Elle a même parlé de faire le ménage chez la SAAQ. C'est juste qu'il y a un peu une ironie du sort, c'est qu'on a nommé une nouvelle PDG le 9 juillet dernier. Aujourd'hui, on est le 8 août. Un mois plus tard, on a ce comité de sages-là. Donc, à quoi cette nouvelle PDG-là va servir, là, c'est la grande question à se poser.
Jeff, à l'antenne, au début de l'été, on a eu des discussions intéressantes avec notre chroniqueur Francis Gosselin sur l'utilité, au fond, de la Société de l'assurance automobile du Québec et comment on fonctionne à d'autres endroits où c'est beaucoup plus simple, où la structure est à toute fin pratique éliminée. Est-ce que la ministre donne vraiment carte blanche et les coudées franches à ces trois personnes-là pour revoir en profondeur le modèle de la SAAQ, quitte à le couper pour vrai, parce que des ménages, on s'en est fait promettre pas mal, ou c'est plus, d'après toi, une opération cosmétique pour changer l'image de la SAAQ qui, présentement, est très négative?
À l'heure actuelle, ça m'apparaît plus d'une opération cosmétique, parce qu'on n'a jamais parlé d'enlever cette structure-là de la SAAQ dans la conférence de presse. On a plus parlé de la transformer. Donc, je pense pas qu'on veuille aller aussi loin. Par contre, les trois personnes ont le mandat d'aller vérifier ce qui se fait au Canada, ce qui se fait dans des États aux États-Unis comparables au Québec en termes de population. Alors, est-ce qu'ils vont décider de sortir en dehors de cette fameuse boîte-là et de proposer quelque chose de complètement nouveau? C'est pas écarté, mais ça serait étonnant, selon moi, là, ça, avec là, ce que j'ai entendu de la ministre aujourd'hui.
Est-ce qu'on va avoir le rapport de ces trois personnes-là avant les conclusions de la commission Galland?
Non, le rapport va suivre deux mois, au maximum deux mois après la commission Galland, parce que la commission Galland fait partie d'éléments qu'ils devront tenir en compte pour proposer cette fameuse transformation-là à la SAAQ. Alors, ils commencent le travail en parallèle pour justement que tout soit produit là quand même assez rapidement et surtout avant la prochaine campagne électorale.
C'était-tu la dernière conférence de presse de Geneviève Guilbeault à titre de ministre des Transports?
Alain Laforêt, il a posé la question de TVA. Est-ce que vous êtes heureuse au transport? Denis, je t'ai fait jouer l'extrait tantôt dans le retour de Gravel. Il t'a une hésitation monumentale. Si on pensait que Chantal Marchand, la candidate du PLQ, hier, dans le débat d'Arthabascal, hésitait à savoir comment financer les nouveaux projets de logement social, ben, je vais te dire une affaire, Geneviève Guilbeault vient de la battre dans une hésitation à savoir si elle est heureuse comme ministre des Transports et de la Mobilité durable.
Merci, Jeff.
Ça fait plaisir.
On t'écoute dans le retour avec Denis tantôt.
Salut Jeff, à tantôt.
Yeah. Salut. Donc, une autre organisation qui se joint au fiasco de SAACLIC pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la SAAQ. Tu sais, pour ce qui est du service à la clientèle, Denis, il y a de ça deux semaines. En passant, moi, j'ai été très bien traité, là. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait une fille qui était là, avec qui j'ai travaillé dans la restauration pendant des années.
C'était quelqu'un que tu connaissais.
Qui m'a reconnu puis qui m'a aidé. Ah. Parce que sinon, j'aurais dû retourner à la maison. Mais j'avais une urgence. Je t'allais acheter un autre véhicule. Puis il fallait que je fasse mes papiers rapidos.
Ouais.
J'arrive à SAAQ, juste à côté ici. Mm-hmm. Et je me présente. Là, est-ce que vous avez un rendez-vous? Je dis non. Fait que là, elle dit, mais ça prend un rendez-vous? Je dis, moi, OK, je fais quoi? Puis avant moi, il y avait une dame qui était là, une dame de 80 ans qui était là, puis elle s'est présentée comme moi, puis elle n'avait pas de rendez-vous. Elle était à l'ancienne. Tu sais, tu te présentes, puis t'attends, puis tu passes au kiosque. Puis là, ben, l'agent de sécurité est en train d'expliquer que ça y prenait un rendez-vous. Puis là, elle demande à l'agent de sécurité, mais où est-ce que je prends mon rendez-vous? Mais il dit sur Internet. Mais il dit, moi, je connais pas ça, monsieur Internet. Donc là, tu avais l'agent de sécurité qui essayait d'aider cette dame-là. Après ça, tu as eu l'agent de comptoir qui est allé avec cette dame-là pour prendre un rendez-vous sur un autre ordinateur. Là, il était trois pour aider cette dame-là. Puis là, moi, je dis, OK, mais je peux-tu repasser cet après-midi? Ben, elle dit, attendez un peu, je vais vérifier. Puis là, j'ai vu cette fille-là qui m'a dit, qu'est-ce qu'il y a, Yann? Fait que là, je dis, ben, faudrait que je fasse mes papiers. J'ai acheté un véhicule, puis je roule avec présentement. Fait que c'est pressant.
Sans ça, il aurait fallu que tu repasses. Là.
C'est ça. Ouais. Fait que là, elle dit, ah, je vais t'organiser ça. Puis là, elle m'a passé dans le système. J'ai eu un super de beau service, mais ils ont tellement complexifié les choses que les gens se présentent à SAC présentement, puis ils travaillent deux puis trois fois plus qu'ils travaillaient avant quand ils disaient, voici une salle d'attente, attendez votre tour, puis vous allez passer quand ça va être votre tour.
Parce que c'est mal organisé. Le sans rendez-vous est rendu avec rendez-vous, mais le rendez-vous, comment tu le prends?
C'est ça. Bien, les cliniques sans rendez-vous qu'on a au Québec pour voir un médecin, il faut que tu prennes un rendez-vous.
Ben oui, ben oui. Ça a été long avant que je le comprenne, ça, là, mais puis encore aujourd'hui, c'est ça sonne drôle, hein? Entre mes deux oreilles. Ben oui, mais c'est ça pareil.
Hey, sur Laurentienne-Nord, on sait maintenant ce qui se passe. Donc, auteur Georges Muir, voie de droite partiellement entravée, c'est qu'il y a un véhicule lourd en panne. Oh. Est-ce qu'il est sur place? Ça va prendre un certain moment, mais ça ralentit, assurément. Quand on était dans le ministère des Transports, à parler de Geneviève Guilbeault, qui a une hésitation à dire si elle veut revenir au ministère des Transports ou si elle est bien, là, de ce que Jeff nous a conté. Moi, il y a une chose qui me vient en tête, qui ça me paraît claire et tangible. Si une femme comme Geneviève Guilbeault, par exemple en politique, souhaite être première ministre ou à la tête d'un parti, mais n'a pas réussi à bien manier le ministère des Transports, qui est important. Imaginez être à la tête d'un parti, c'est encore plus important, c'est encore plus gros, il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on peut penser qu'elle sera à la bonne place à la tête d'un parti?
Moi, j'ai l'impression qu'elle est là en punition. On savait ce qui s'en venait avec sa clique. On savait qu'il y avait un fiasco là. François Legault ne croit pas au troisième lien, ne veut pas faire le troisième lien, puis envoie une ministre se dépatouiller avec des promesses qui ne seront pas tenues.
Mais si tu veux être première ministre un jour, si tu veux être chef d'un parti, même quand l'eau bouille, et pas juste chaude, là, même quand l'eau bouille, faut que tu réussisses à faire mieux les choses.
Faut que tu manges ton pain noir, comme dirait l'autre. Mais si dans un grand remaniement ministériel, tu vois que Geneviève Guilbeault reste au transport, on comprend que la punition n'est pas terminée là, à la CAQ pour Mme Guilbeault.
Effectivement, effectivement. Je ne sais pas si tu as écouté le débat hier. Éric Duhaime et Alex Boissonneau vont être avec nous vers les entours de 12h30, 12h40, là, si tout va bien. Éric Duhaime, ça a été confirmé, c'est sûr, donc 12h30. Mais j'ai trouvé ça drôle hier. Je sais pas s'ils te l'ont fait entendre dans le retour. T'as-tu écouté?
Oui, oui.
Okay. T'as-tu entendu quand Alex Boissonneau s'est présenté pour la première fois?
Non.
Tu l'as pas entendu? Tu sais, Alex Boissonneau, quand on a annoncé sa candidature dans Arthabasca, ça a été chaotique parce que là, les gens ont révélé son passé. Mm-hmm. Il a fait de la prison. Il voulait poser des bombes. Hey, c'était le morning man de Radio-Canada. C'était le gars le plus propre de la Terre. Puis c'était nous autres qui étaient qualifiés comme extrémistes. Puis tu en avais un qui était peut-être un extrémiste qui faisait le matin pendant des années. Puis quand j'y ai parlé, il y a de ça 2-3 semaines, je l'ai trouvé vraiment sympathique.
Uh-huh.
Okay? Fait qu'on dirait que hier, j'ai eu mal au cœur quand il s'est présenté parce qu'il y a eu des difficultés. Denis, écoute ça, tu vas halluciner.
Eux qui se lèvent pour nous à l'Assemblée nationale. Boissonneau, quand eux qui se lèvent pour nous à l'Assemblée nationale, je crois que ça fait une différence.
C'est mal découpé.
Que les gens m'en parlent sur le terrain. OK. Je souhaite pouvoir faire ce changement-là.
Parfait. Ben, il reste 20 secondes, mais c'est pas grave. On l'aura pour plus tard dans le débat. Alex Boissonneau, maintenant.
Bon, moi, je suis Alex Boissonneau, candidat de la coalition à NRK.
Il était nerveux, ce pauvre petit. Oh là là.
Alex Boissonneau, maintenant.
Bon, moi, je suis Alex Boissonneau, candidat de la coalition à NRK.
Oh, c'est un lapsus,
c'est
qui
bon,
tue,
hein?
Ça.
Oui, puis tu sais, j'imagine qu'il était pas dans son élément, là. Ah, ouais. Un studio de télé, c'est pas pareil comme un studio de radio, là. Un studio de radio, t'es avec ton monde, puis t'es isolé. Mm-hmm. Là, il devait avoir énormément de pression.
Puis regardez la caméra, là. Faut qu'il débatte contre Éric Duhaime, il sait tout ce qui s'en vient.
Il s'est présenté pour le mauvais parti.
Pauvre lui.
Ah, c'est incroyable.
Plus de chances d'avoir des votes présentement au sein du PQ qu'au sein de la CAQ, on s'entend, là?
Ouais, effectivement. Hey, parlons du PQ puis de son plan, son projet numéro un, c'est-à-dire la souveraineté. Je sais pas si tu as vu l'article de la presse, mais aidez-moi à comprendre parce que je pense qu'il y a eu une problématique au niveau des calculs mathématiques. Okay? C'était peut-être le même service des communications que la Ville de Québec avait quand ils ont vu un sondage puis ils ont dit ah, finalement, on va l'interpréter pour que. On va arrondir les chiffres pour que ça paraisse bien.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que là, on voit le titre, c'est montée spectaculaire du souverainisme chez les jeunes. Fait que je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant à lire parce que je me dis, mais où est-ce qu'ils voient ça, les jeunes, que ce serait intéressant, tu sais, que le Québec soit souverain? Puis j'ai pas de réponse à mes questions. J'imagine que c'est au cégep qui jase de ça. Du moins, moi, je n'entendais beaucoup parler au cégep. Après ça, dans le chapeau, c'est pas le journaliste qui l'écrit, soit dit en passant, c'est souvent le titreur. Les chiffres rappellent ceux de l'époque du deuxième référendum dans une montée spectaculaire de souverainisme qui se produit chez les jeunes générations. 56 % des 18 à 34 ans sont maintenant favorables à l'indépendance du Québec. Ça veut dire 6 jeunes sur 10 entre 18 et 34 ans. Puis quand je regarde le sondage, Denis, on dit que les répondants Habitation métropolitaine Montréal appuient la souveraineté à 38 %. Donc 4 Montréalais sur 10 appuient la souveraineté à Montréal. Compte 45 % pour ce qui est de la ville de Québec et la région. Dans l'ensemble, c'est là que je comprends pas, on dit que dans l'ensemble, chez les jeunes là,
oui.
qui ont répondu au sondage, c'est 56 % qui sont contre.
Mm-hmm.
Là, il y a un problème. Hein. Ils sont contre.
Là, tu parles juste des jeunes à 56 %.
Mais on dit que dans l'ensemble de toutes les jeunes qui ont répondu, c'est 56 qui sont contre.
Uh-huh.
Tandis que dans l'article, en haut, dans le chapeau, ça dit 56 pour.
C'est bizarre, ça.
C'est vraiment bizarre.
Parce que j'ai lu l'article tantôt en diagonale, puis on montre une progression, on montre une augmentation. J'ai 2-3 théories là-dessus, d'ailleurs, là, mais c'est pas la population totale qui est à 56 % contre la souveraineté?
Mais regarde, dans
ou la population francophone?
Mais il y a un choc des générations, peut-être, parce que clairement, PSPP il a été en montée, puis au moment où il a parlé d'un référendum, il en a perdu un peu.
Dans l'ensemble, 44 % des répondants au sondage, OK, toutes les âges confondus,
ouais, c'est ça.
Soutiennent l'idée de l'indépendance ouais. du Québec, alors ouais. que 56 % sont contre.
56 % de la population est contre, 56 % des jeunes sont pour.
C'est ça.
Voilà.
C'est pour ça que je parlais d'un choc des générations. Il y a quelque chose qui se trame là.
Ben,
ils apprennent où l'information concernant la souveraineté? C'est ce qui m'intéresse, moi.
C'est pas l'information comme la mode. Tout est cyclique. Hein. Moi, il y a deux affaires que je pensais pas qu'ils allaient revenir à la mode, la souveraineté et les moustaches. Et pourtant.
Oh oui, c'est beau.
Les deux sont revenus à la mode. Puis, dans le cas de la souveraineté, je pense que les jeunes ont un refus global sur l'international présentement, avec ce qui se passe avec Trump, avec les tarifs, puis toutes ces conneries-là. Est-ce qu'on trouve qu'il y a un manque de leadership pour représenter le Canada là-dedans? Il y a peut-être une fin de non-recevoir à ce niveau-là aussi. Moi, ce qui m'intrigue, c'est si ça tient, parce que c'est bien beau de dire on va être souverainiste puis on fait la souveraineté, mais la souveraineté de cette nouvelle génération-là, si elle existe, elle va être bâtie et elle va être présentée comment? Ça, moi, ça m'intéresse. Parce que la souveraineté du premier référendum, c'était une souveraineté culturelle.
Ouais.
Tu sais, c'était beaucoup, beaucoup autour de la musique, de la langue francophone et ainsi de suite. Le deuxième référendum, c'était un peu un mélange de tout. On s'est ressaussé. Si jamais on se rend à une troisième conversation de souveraineté où on tasse un peu la plus vieille génération comme nous autres même, qui est écœurée d'en entendre parler, est-ce que les jeunes vont avoir quelque chose de nouveau à dire là-dessus, de nouvelles raisons, de nouveaux motifs? Moi, j'ai toujours été ouvert à parler de souveraineté au niveau économique. Montre-moi que le Québec va être un meilleur performeur économique que le reste du Canada, et je vais peut-être embarquer dans tes affaires. D'ici là, ça ne m'intéresse pas.
Parce qu'au niveau de l'économie canadienne, on avait un ennemi commun, tous les Canadiens ensemble. C'était le Grand Orange qui
ouais.
foutait le bordel l'autre bord.
Ouais.
Puis là, bon, on avait une élection qui se jouait entre un gars qui a toujours été un politicien, Pierre Poilievre, qui est un gars de droite économique, puis un gars qui est un économiste, qui est mm-hmm. un grand banquier, qui se promenait à U et à IA dans le monde, qui avait un solide CV. Ben, en raison de cet ennemi commun-là, les Canadiens ont dit... C'est aussi bête de prendre le gars qui est en économie puis qui joue vraiment avec de l'argent
ouais.
pour faire face au gros orange. Finalement, on n'est pas plus avancé. Mais pour ce qui est de la souveraineté, lorsque PSPP prendra le pouvoir, s'il prend le pouvoir, ça va être qui l'ennemi commun? Est-ce que Donald Trump va arriver encore avec ses histoires? Ça va prendre un ennemi commun pour que tout le monde puisse se rassembler contre ce méchant-là?
Je suis d'accord. Puis ça va prendre quelqu'un aussi qui... on a vu des premiers ministres de province sortir du lot. La première ministre de l'Alberta, que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'elle a fait, elle a pris des initiatives. Elle a représenté son monde. Ford, aux États-Unis, Ford en Ontario, qu'on a surnommé Capitaine Canada pendant quelques mois, qui a pris les devants à un moment donné, qui a pris le leadership,
ouais.
pendant que François Legault est resté assis chez eux, à pas faire grand-chose, exact. À suivre la parade, comment on se place pour être un leader à la fois souverainiste, mais qui a besoin, oui, d'ennemis communs, mais qui a besoin de partenaires forts. Parce que, dans ma tête, la souveraineté de 2025, si elle existe, faut que tu dises, la seconde où on a la souveraineté, ou même avant, on a des partenariats très forts de signer avec l'Ontario, avec l'Alberta, avec la Colombie-Britannique. Tu fais pas les affaires à l'envers. Tu règles tes ententes économiques et après ça, tu te présentes devant la population puis tu dis, regarde, si on s'en va en souveraineté, on a des pactes solides avec eux autres. On a peut-être un pacte solide économiquement avec le nord-est des États-Unis, avec l'Europe. Tu bâtis quelque chose de solide et de crédible. Okay. Moi, les gens vont vouloir acheter ce que tu as avant.
J'ai jamais été fermé à la souveraineté. Moi, je pense que les gens qui se ferment à la souveraineté, c'est des gens qui sont un peu bornés. Moi, je me dis, le jour où s'il y a une souveraineté, puis ils seront capables de nous dire comment on va être capable de se passer de la péréquation, par exemple. Comment on va être capable d'avoir un si gros panier de services, parce qu'on va se le dire, là, si tous les immigrants choisissent le Québec, quand il arrive au Canada, c'est parce qu'on a un panier de services qui est juste hallucinant, puis on n'a pas les moyens de se payer le panier de services-là.
Est-ce qu'on accepte de couper certains services au nom de la souveraineté?
Avec la péréquation, on est capable d'avoir un panier de services qui est très, très confortable. Mm-hmm. Là, si tu n'as plus de péréquation, tu prends ton argent où?
On est en même place, Yann.
Tu vas-tu exploiter tes ressources? L'exploiter tes ressources, c'est Éric Duhem. Là. C'est la droite économique. Là,
ben oui.
Puis là, Paul Saint-Pierre Plamondon, avant qu'Alex Boissonneau disait que le PQ, c'était une coalition. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un gars qui est un peu plus à gauche. Là. Fait que lui, il est hors de question qu'il ouvre les sols, le sol québécois pour exploiter nos ressources.
Il y a des faut voir le réfifi actuel aussi. Ce qui nous bloque avec l'imposition des tarifs américains en ce moment, c'est le manque de barrières. Trop de barrières qu'il y a entre les provinces. Puis tu vois encore confrontation Ontario-Québec. Tu deviens souverain du jour au lendemain. T'as pas l'attache du fédéral qui dit, là, réglez vos espèces de niaiseries. Là, là les frogs d'un côté puis les têtes carrées de l'autre, là, on peut-tu essayer d'enlever ça? Et ça va être pire. Ça, c'était d'une importance capitale dans les dernières décennies de travailler ces relations-là. Ça n'a pas été fait. Moi, je pense que même si on le souhaiterait à certains égards, qu'on souhaiterait développer notre économie encore plus, il fallait et il faut le faire encore plus avant de penser à séparer.
Parce que moi, je suis un giver. Je suis quelqu'un qui donne de l'impôt constamment dans ma société. Je donne de l'impôt, je donne de l'impôt, je donne de l'impôt. Puis tant ou longtemps que vous ne me convaincrez pas au niveau économique, vous ne m'aurez pas. Mais les takers, les jeunes, ceux qui prennent, parce qu'ils vont à l'école, l'école, c'est pas gratis, là, c'est quand même nous autres, ou les personnes âgées qui sont en majorité, ceux qui votent, eux autres, c'est des takers. Là, ils sont dans le système de santé puis ils ont besoin de se faire soigner. Et que le panier de services, moi, jusque-là, j'ai rien à dire. Mais eux autres, ils vont-tu vouloir cette souveraineté-là? Peut-être, mais il faut que tu leur expliques que si tu veux cette souveraineté-là, ça va venir avec le fait qu'il va peut-être avoir un peu moins de services pour les personnes âgées. Peut-être que l'école va falloir déplier un plus gros montant pour y aller. Tu sais.
Si j'étais Paul Saint-Pierre Plamondon, j'essaierais de les trouver le plus vite possible, ces jeunes-là, pour leur demander votre souveraineté, c'est quoi? C'est quoi vos priorités? C'est quoi que ça prend? Pour essayer de bâtir un nouveau discours. Parce que tu ne peux pas revenir avec la même recette que les deux dernières fois. Ça va finir exactement de la même façon. Moi, ça fait une vingtaine d'années, Yann, que je dis la même chose. Le Québec ne sera pas la première province indépendante du Canada.
Ça va être l'Alberta.
Vraisemblablement. Quand l'Alberta va négocier son indépendance, ça va être intéressant aussi de voir, si on se rend là, comment ils vont le faire, sur quel barème ils vont le faire, sur quel principe ils vont le faire, le genre d'entente qu'ils vont être en mesure de négocier. Ça va être un modèle intéressant. Puis si on n'attend pas après l'Alberta, bien, je pense que la réponse, c'est les jeunes qui disent qu'ils croient à la souveraineté. C'est-tu juste un refus global de l'actualité qu'on a sous les yeux actuellement? Ouais. Je pense que oui aussi. Mais si ça va plus loin que ça, ben là, c'est peut-être de trouver les nouvelles spins puis de dire, ben pour la nouvelle génération, tu sais, nous autres, on parle d'économie. Peut-être que c'est ça qui est important pour la nouvelle génération. Peut-être que la mode de l'écologie à tout prix aussi est en train de prendre la voie de l'extrême gauche. Tu sais, on veut peut-être devenir un peu plus pratico-pratique. On a parlé d'exploiter nos ressources tantôt. Peut-être que tout ce qui se passe au niveau international, ça ramène cette discussion-là au goût du jour, même pour les souverainistes. Moi, je pense que ces gens-là, présentement, le PQ, doivent écouter beaucoup ou s'ils veulent être sûrs de former le prochain gouvernement, justement, de dire, dans le premier mandat, on vous sac patience avec ça, on va écouter ce que vous avez à nous dire, mais là, dans le contexte international actuel, ben il faut voir comment tout ça se place pour voir comment nous, on place le Québec par rapport à tout ça.
La plateforme économique est super importante à rendre et à expliquer.
Ben oui,
souvent, Yannick et moi, on dit en ondes, ben soyez transparents. Au pire, ça aura l'air d'un cours, là. On sera de retour sur les bancs d'école, mais qu'un parti politique nous convie d'une manière ou d'une autre à écouter leur plan économique, autre que dans un scrum à couteau tiré dans une entrevue où on pose une question puis ils sont pas prêts pour. Québec solidaire, je le sais que pour la souveraineté, ils ont fait un exercice économique extrêmement étoffé. Qui le connaît?
Personne.
Quand est-ce qu'ils en parlent? C'est nous qui donnons pas d'attention parce qu'on se dit...
J'ai peut-être plus l'impression que c'est des pelleteux de nuages, mais actuellement,
mais au pire, on aura cette information.
Ben, actuellement, l'Alberta est en position de se dire « Hey, ça se peut que si on se sépare, les autres ne soient plus jamais à notre remorque. Sont riches. Mm-hmm. C'est des gens qui payent constamment pour les gens qui sont autour. Ils veulent garder leur argent. Mais le jour où tu vas me dire, Yann, on est capable d'exploiter nos propres ressources, on est capable de donner, de garder notre argent puis de subvenir à nos besoins, je vais avoir l'oreille ouverte pour la souveraineté. »
Hier, dans le débat d'Arthabasca entre Boissonneau et Duhaime, il y a eu un échange où Duhaime dit « On sait bien, vous autres, vous voulez faire la souveraineté. » Puis là, Boissonneau répond « Ouais, mais il n'y a pas juste ça d'important. Puis moi, je suis là pour ma région. » Puis Duhaime qui dit « Ouais, mais là, la souveraineté, là, c'est l'obsession de votre chef. » Hey, cette toune-là, là, je l'ai entendue souvent, ça doit être le 9e cover. Là. Ouais. C'est pas les mêmes qui chantent, mais non. C'est exactement la même toune dans le même ordre. Faut que quelqu'un qui se présente pour le PQ soit prêt à répondre à cette question-là puis nous l'expliquer, la mosure de souveraineté en 2025.
Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a pas été briefé sur la réponse.
Ben oui!
Quand j'étais chez nous hier, j'écoutais ça, je me disais, mais comment ça, qu'ils n'ont pas donné une réponse à donner par rapport à ça? Ça a comme pas de bon sens, puis il s'est fait prendre. Puis c'est vrai que, tu sais, pour ce qui est de la taxe carbone, la bourse carbone, tu sais, Éric Duhaime mélange souvent les deux, mais il le fait intentionnellement. Mais Alex Boissonneau et le PQ tentent de faire mal paraître Éric Duhaime en disant, Non, il n'y a pas de taxe carbone au Québec. Vous êtes mêlés. Taxe carbone, c'était les Ontariens. Alors qu'au Québec, il y en a une bourse carbone pour les entreprises. Et cette taxe-là est refilée, bien entendu, aux consommateurs. Puis ce qu'Éric Duhaime a amené comme statistique hier, c'est que c'est 10 000 piastres de pétrole de plus que tu payes si tu es un agriculteur en raison de la bourse carbone, ce qui est épouvantable. Mais Alex Boissonneau avait encore là aucune réponse à donner pertinente, si ce n'est que de mêler les gens en disant « il sait pas de quoi il parle, lui-là, on n'a pas de taxe carbone au Québec ».
Je peux être critique envers Éric Duhaime, ça agace certains auditeurs, mais hier, il a tellement mangé Boissonneau dans le débat que ça donnait l'impression qu'il y en a juste un d'un deux qui avait déjà fait de la radio.
Ouais. Même quand TVA dit que Alex Boissonneau, ça a été une dure,
dure épreuve. C'est que tout le monde le reconnaît. Là.
Exactement.
Sauf qu'Alex Boissonneau, à sa défense, puis là, c'est vraiment une défense qui n'est pas des allégeances politiques, là. Le gars vient d'embarquer dans le bassin politique. Éric Duhaime le maîtrise autant que la radio depuis des années. Je pense que ça le stressait peut-être beaucoup moins.
C'est possible, il s'est même présenté pour le mauvais parti avant son débat, c'est assez particulier.
Erreur à ne pas refaire s'il
nous,
veut passer.
Nous, on
travaille
à choix, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ça t'a-tu gossé, Denis, de voir nos politiciens sur les réseaux sociaux parler de leur voyage, puis parler de ce qu'ils font pendant leurs vacances? Ça te gosse-tu, toi?
Indifférence totale.
Okay. Moi aussi, je suis indifférent, quoique si je vois que Geneviève Guilbeault était à l'Île d'Orléans, exemple, je trouve ça cool de sa part de faire une promotion pour une entreprise de l'Île d'Orléans.
Tu veux savoir si je regarde les vidéos de Geneviève Guilbeault sur Instagram? Oui, absolument.
Tu mets pas le son.
Tu me poses la question, est-ce que je regarde les vidéos de Geneviève Guilbeault sur Instagram? Je te réponds oui,
tout
absolument.
Tu mets-tu du son ou non?
Ça dépend. Hein? Je veux pas déranger personne autour. Puis souvent, les images parlent d'elles-mêmes aussi.
Mais j'aime ça. J'écoutais Jeff puis Jacinthe en parler ce matin. Puis pour eux autres, ils disaient que la politique, c'est pas pour être populaire sur les réseaux sociaux. Je pense que je suis capable de les rejoindre à cet égard-là. Mais en 2025, les gens, tous les humains, là, depuis que l'humain est humain. On a toujours appris par mimétisme. Puis si ces gens-là peuvent dire « Hey, savez-vous quoi? J'ai été visiter dans mon comté telle petite business, puis ça peut profiter à cette business-là. » Je suis persuadé qu'il y en a qui vont voir Geneviève Guilbeault aller à quelque part dans un restaurant et vont dire « Ah, ben crime, je le connaissais pas, ce restaurant-là, moi y aller. »
Ah, puis écoute, faire de la promotion pour ta région pendant l'été, moi, je vois rien de politique et de négatif là-dedans.
Moi non plus.
Au contraire.
Si c'est un autre pays... Mettons que tu vois une politicienne ou un policier dans un autre pays qui est en vacances, ça te fait-tu plaisir? Ça te fait-tu chier?
ça me fait rien. Ils ont le droit de prendre des vacances, puis ils ont le droit d'aller où ils veulent. Puis si tu suis une personne sur Instagram, que ce soit une personnalité publique, une personnalité privée, une personnalité du showbiz, du sport ou de la politique, ben sur Instagram, les gens partagent des moments de vie. Fait que moi, il y a un voyage qui m'a gossé, là, c'est quand on a envoyé officiellement des ministres pour le nouveau pape. On est laïque, ça a de l'air. Ça, moi, ça me bug. On dit à des gens qui arrivent ici de laisser leur religion de côté. Ils ouvrent le CN, ils voient les élus à François Legault au Vatican.
Ouais.
D'après toi, ils se demandent pas « what the fuck ».
Sonia Lebel qui se présente sur un autre angle. Sonia Lebel est toujours extrêmement sérieuse.
Ouais.
Là, on la voit avec son quatre roues à essence, avec ses lunettes en tenue de combat. Ouais. De ce que je comprends, c'est qu'elle allait à la chasse, là, en tenue de camouflage.
En tenue de combat!
Je trouve ça cool!
Ben écoute,
ça cool.
Moi, ça me rassure que ces gens-là décrochent de la politique, ça lui fait voir du vrai monde. Dans leur famille, c'est pas tous des politiciens, j'imagine. De redescendre sur le plancher des vaches, faire un peu de quatre roues, aller voir des commerces de ton coin, voyager un peu pour voir d'autres choses. Je ne vois que du positif là-dedans. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, qu'on soit d'accord ou pas avec les shots qui callent, c'est du monde qui ont le droit de vivre quand ils sont en vacances.
C'est-tu le côté fake? Que les gens aiment peut-être un peu moins des réseaux sociaux, de voir une politicienne. Puis moi, je mens pas, là. J'ai vu Geneviève Guilbeault reprendre à peu près 10 fois la même scène du divan, ou à notre ancien travail, là, du divan jusqu'à la porte. Elle a repris 10 fois cette scène-là pour se faire une belle petite vidéo sur Instagram. C'est-tu le fake que les gens détestent?
Ben, si les gens détestent le fake, je vois pas ce qu'ils font sur Instagram, là, pour être très honnête avec toi. Là.
Ouais.
Tu peux voir
qui est plus authentique que l'autre.
Des fois, Audrey fait semblant de s'entraîner sur Instagram.
Oui.
C'est comment?
Pascal Cévin.
Ah, c'est lâche de ta part.
Pascal Cévin.
Même pas là pour
Pascal
se défendre.
Pascal Cévin sur Instagram, elle a une photo d'elle avec des culottes en cuir à côté d'une moto. Ouais. Elle a même pas une moto.
Tu sais, veut dire? Oh, ces culottes de cuir là, on les a jamais vues, nous autres.
Non, parce que c'est des culottes de moto.
Ah! Oh.
Qu'est-ce que tu faisais avec ça? T'as même pas de moto.
Mais j'allais en moto.
Okay.
C'est pas parce que j'en ai pas que j'en conduis pas.
Mais c'est vrai que c'est fake.
C'est en 2020, sûrement, 21, ou je sais pas quoi.
Bon, maintenant, je veux juste te dire, Pascal, que hier, Denis a fait un exercice avec ses collègues de travail. J'ai trouvé ça incroyable, cet exercice-là, puisque je pense que dans toutes les familles, dans tous les couples, dans toutes les entreprises, on devrait faire ce test-là.
Qu'est-ce qui nous gosse?
C'est-à-dire, qu'est-ce qui gosse des collègues de travail?
Y a-t-il un mode d'emploi où on y va à varia comme ça?
Moi, j'ai lancé ça. C'est parce que c'est Richard...
Que je vais sortir mes pages.
C'est Richard Martineau dans le Journal de Québec qui avait comme demandé à ses lecteurs d'envoyer qu'est-ce qui vous gosse dans la vie en général.
Oui.
Puis là, on prenait les exemples des auditeurs, puis c'est toujours un peu les mêmes affaires. Les gens qui parlent fort au cellulaire, les gens qui s'assoient à côté de nous autres au cinéma quand la salle est vide.
Pourquoi?
Puis à un moment donné, j'ai décidé qu'on réglait nos comptes, puis j'ai dit, entre nous autres, les trois de Gravel dans le retour, tu sais, c'est quoi qui nous gosse le plus? Puis j'ai même parlé de ma blonde. Tu sais, d'ailleurs, elle m'a bougonné toute la soirée.
Ça aussi, c'est lâche.
Non, mais
pas
faut régler nos comptes.
Ben oui, mais ça fait du bien des fois de le sortir. Moi, il y a des choses de ma blonde qui me gossent.
Tu sais, moi, je nommerai pas la personne parce que quand je parle d'elle, elle est tout un peu fâchée, mais il y a quelqu'un qui, on dirait, il y a trois urinoirs, OK? Moi, quand j'arrive à l'urinoir, je prends jamais celui-là du centre, je prends tout le temps l'extrême, OK?
Un des deux bords.
Celui-là qui est à l'autre bout,
oui.
Ça laisse l'occasion au gars qui rentre après moi...
D'aller l'autre côté.
De prendre... pas celle du milieu, mais celle la plus éloignée de moi.
Puis moi, je me tiens loin des toilettes fermées. Comme ça, si quelqu'un veut aller faire un gros voyage, ben je vais être loin. Tu sais, j'ai le plus proche du mur possible.
J'ai un collègue qui, systématiquement, prend tout le temps celle qui est la plus proche. Il travaille plus avec moi, là, mais il prenait tout le temps, systématiquement, la plus proche de moi.
Pourquoi?
J'en ai aucune idée.
Est-ce que tu en as déjà parlé?
Oui.
Tu as déjà fait une genre de façade, t'as pas voulu prendre l'autre.
Mais là, je voulais te parler. Je veux pas te parler.
Je voulais te parler aux toilettes.
Tu sais qu'il y a deux anciens qui travaillaient le matin chez Leclerc Communication, que quand ils finissaient leurs émissions de radio respectives,
et à l'ensemble.
Ils s'en allaient chacun sur un trône, puis ils s'en allaient jaser là comme des Romains dans le temps. Hey, toi puis moi, après le pit stop, je te jure qu'on se croise pas aux toilettes, là. Non.
Ça arrivera pas. Puis ici, il y a deux urinoirs. Puis bien souvent, quand il y a une urinoire qui est prise, je m'en vais aux toilettes, la grosse toilette, là.
Ouais.
Toilette à flocher.
Ah oui, puis écoute, moi, s'il y a déjà une toilette d'occupée, on va aller voir d'un autre étage.
Fait que Pascal, qu'est-ce qui te gosse de moi?
Quand tu m'écoutes pas pendant qu'on est en onde, puis le but, c'est d'avoir une conversation à
deux. Ça, c'est un lundi.
Quand tu me laisses pas parler de la Chine, quand tu me laisses pas parler des records Guinness les plus stupides.
T'es censuré?
Des nouvelles insolites. Oui, je suis censuré.
OK.
Je le vois dans ses yeux. Je vois dans ses yeux, ce qui passe, c'est je m'en, je vais dire, balance, au lieu de dire d'autres mots. Puis il me regarde avec un petit sourire niais, puis il se retourne vers son ordi, puis il parle de d'autres choses.
Mais c'est pas si pire, Pascal. Moi, j'aurais pensé que t'aurais dit une affaire comme toi, Yann, ce qui me gosse de toi, c'est ton existence, mettons. Mais t'étais gentil.
Mais j'avais pas fini. Ouais. J'ai dit, j'ai deux pages.
Moi, Pascal, j'ai rien de ça, je t'apprécie, merci.
Pascal, elle me l'a dit hier. Ce qui la gosse le plus de moi, c'est mon humilité. Puis je l'accepte.
À quel moment j'ai dit ça, moi?
Merci, Denis, on t'écoute dans le retour.
Salut, là, à tantôt. Bye bye. Boulard, le Pit Stop. La semaine, dans Marceau le midi, Marceau et Gravel refont le monde pendant 30 minutes dans le Pit Stop. Yes!